Exploration, gagner en XP dans le JV.
Cette semaine, revenons ensemble sur un terme que vous avez dû déjà entendre pour parler des joueurs et joueuses de jeux vidéo. Le mot « gamer ». Pouvant s'écrire « G-A-M-E-R » ou pareil mais avec un « U » après le « E », invoquant par extension sa féminisation en « gameuse », « gamer » est tout simplement un anglicisme qui, de base, servait à différencier les joueurs et les joueuses de jeux de société ou de jeux de rôle papier, qui s'identifieraient plus au terme « players », de celles et ceux qui jouent aux jeux vidéo. En français, le terme est avant tout utilisé pour raccourcir l'expression « joueur » ou « joueuse de jeux vidéo », car c'est vrai que deux syllabes plutôt que quatre mots, ça reste plus facile. Cependant, je vous mentirais si je vous disais que le mot était en tout point neutre. Personnellement, je ne l'ai quasiment jamais employé, je trouve ça moche dans une phrase « gamer ». Il en va de même pour un autre anglicisme, « gaming », soit la pratique du jeu vidéo, qui, à mes yeux, est plus une blague qu'autre chose. Imaginez vous dire « ce soir, je fais du gaming », ou « le week-end, c'est mon moment gaming ». Que dire de plus si ce n'est que vous auriez l'air d'un pur bouffon. Aussi, s'identifier comme gamer a cet aspect communautaire, comme si déclarer qu'on est des gamers insinue qu'on partage des valeurs similaires, alors qu'en réalité, on a juste un hobby en commun, et c'est quelque chose que beaucoup semblent oublier. C'est un terme vide et qui vous mettra particulièrement mal à l'aise après l'histoire que je vais vous raconter. En août 2014, une partie du forum en ligne 4chan va se prendre de passion pour une querelle entre deux individus. Alors, 4chan, c'est un site internet issu d'un autre temps. Créé en 2003, le forum est aujourd'hui connu pour être deux choses. La première, c'est d'être le berceau de milliers de mèmes, ces blagues virales qui peuvent adopter la forme d'une image, d'une musique, d'une vidéo ou tout simplement d'un texte et que l'on peut croiser sur différents réseaux sociaux. Pour vous donner un exemple, quoi de mieux que le thème du jeu Wii Sport ? Mais 4chan, c'est surtout le repère de dizaines de milliers de détraqués incapables de vivre en société qui racontent horreur sur horreur tout en se croyant drôle et surtout subversif entre deux guillemets de la taille de la tour Eiffel. Ainsi, je ne vous surprendrai sans doute pas en vous disant que ce récit n'a malheureusement rien d'amusant. Pour cause, nos deux individus ne sont autres que Aaron Guioni et Zoe Quinn, deux développeurs de jeux vidéo. À cette période, Aaron et Zoe ne se parlent plus depuis un moment, ils ont par le passé été en couple, mais c'est désormais de l'histoire ancienne. C'est d'ailleurs sûrement pour le mieux, puisque Zoe a trompé Aaron avec plusieurs hommes tout au long de leurs 7 mois de relation. Ma foi, c'est une histoire bien triste pour Aaron, et peut-être pour Zoé aussi dans un sens, mais ce qui est fait, et il ne reste plus à Aaron que de se prendre un pot de glace, regarder Love Actually et de chialer toute la nuit en attendant qu'un de ses amis lui demande si tout va bien. Malheureusement, il semblerait qu'Aaron ne possède ni pot de glace, ni DVD de Love Actually ou d'une quelconque comédie romantique, et encore moins d'amis puisque le cocu va décider de laver son linge en public, et quel meilleur public que les dégénérés de 4chan. Ainsi, dans un long post sur le forum, Aaron va non pas casser du sucre sur le dos de Zoé, mais plutôt toute la production de la raffinerie, puisque ce dernier n'hésitera pas à partager de nombreux échanges privés, ainsi que les noms des hommes avec lesquels elle l'aurait trompé. Problème, dans cette liste de noms, on retrouve un certain Nathan Grayson, journaliste pour le site d'actualité vidéoludique Kotaku. Dès lors, ce qui avait de grandes chances de devenir une vague de harcèlement contre Zoé Quinn pour tromperie va se transformer en une vague de harcèlement, bah oui, hein, faut pas déconner, c'est 4chan quand même, mais pour une presse spécialisée lavée de toute corruption de la part de l'industrie du jeu vidéo. Car oui, à regret, à cette époque, certains médias, aussi bien dans le jeu vidéo que dans le milieu de la technologie, pouvaient se montrer un peu trop conciliants envers certains annonceurs qui tentaient de graisser la patte des rédactions. Ces questions, on les énonçait déjà quelques années auparavant dans des magazines comme Kotaku ou pour la France Canard PC, et ça, c'est dû à diverses affaires, notamment le Doritos Gate, une critique du jeu Halo 4 par le journaliste Geoff Keighley, qui était bien sponsorisé par la marque de soda Mountain Dew, mais surtout la marque de chips Doritos, puisqu'un paquet était posé sur un siège à côté du Canadien et ne servait visiblement à rien d'autre que décorer. Un grand n'importe quoi donc, qui va donner des idées aux idiots de 4chan. Puisqu'en découvrant le nom de Grayson dans la liste, ils vont tous s'accorder pour dire que Zoe Quinn avait couché avec lui dans le but qu'il mette en avant son dernier jeu, Depression Quest, dans un papier. Cependant, cette allégation s'est avérée plus que jamais erronée. De nombreux articles vont alors commencer à sortir en soutien à la développeuse suite au harcèlement qu'elle va subir, qui, pour rappel, se camoufle derrière la volonté de voir une presse spécialisée plus indépendante. Parmi ces articles, on en retrouve surtout un qui récapitule bien ce joyeux bordel. Intitulé « Les gamers n'ont pas à être votre public, les gamers sont finis » de la journaliste Leif Alexander pour le site Game Developer, anciennement Gamasutra, dans lequel elle critique le monde du jeu vidéo. La culture du jeu, telle que nous la connaissons, est un peu embarrassante. Ce n'est même pas une culture. Il s'agit simplement d'acheter des objets, d'utiliser des mèmes et des blagues à répétition et de s'énerver sur Internet. Pour la journaliste, les gamers sont, je cite, « une génération de gamins dans leur garage à qui les gens du marketing ont fait croire qu'ils représentaient le plus grand poids commercial de tous les temps ». Ce récit, c'est celui du Gamergate, un mouvement emblématique dans l'histoire d'Internet et qui aurait dû l'être dans l'histoire avec un grand H tout court, puisque ce n'est ni plus ni moins que la première campagne de cyberharcèlement à grande échelle. Il faut bien comprendre que toutes les personnes qui ont osé prendre la parole pour s'opposer à ce mouvement ont subi des centaines, voire des milliers d'insultes sur les divers réseaux sociaux. Zoe Quinn a vu des photos intimes d'elle postées partout sur Internet, les adresses de différents journalistes ont été échangées sur des forums, et toutes les relations sociales de ces derniers ont été inspectées pour s'assurer que les gamers puissent jouir d'une presse plus libre. Plus libre certes, mais libre pour qui ? Non, parce que je ne vous ai pas encore tout dit, et si le Gamergate a été l'occasion pour certains de véritablement dénoncer une déontologie douteuse de la part de certains médias, cela a avant tout été un festival de haine. On peut d'ailleurs le résumer avec une séquence d'un film très connu, la scène du vide ordure dans Star Wars. Il y a quelques héros, mais ils sont entourés et recouverts de déchets.
Tu les entends, ils sont en train de mourir. Maudite soit ma carcasse rouillée, je n'ai pas été assez vite, c'est ma faute. Ah, mon pauvre maître.
Eh bien, parlons-en désormais de ces déchets. Parce que si le Gamergate est un mouvement désordonné, en même temps, comment voulez-vous que des idiots de 4chan s'organisent, des figures vont rapidement apparaître pour défendre les gamers. Et ces figures, je vous le donne en mille, ils sont bien évidemment issus de l'extrême droite. Alors, ne vous attendez pas à des noms français, puisque l'affaire a eu peu d'écho dans notre pays, si ce n'est par le travail du journaliste William Oduro pour la rubrique Pixel du journal Le Monde. De toute manière, s'il y a bien un nom à retenir, c'est celui de Milo Yiannopoulos, un journaliste et polémiste britannique d'extrême droite. C'est un peu un Éric Zemmour en devenir, à ceci près qu'il ait boosté la culture internet et plus précisément celle de 4chan, celle du troll. Cependant, Milo n'est pas là que pour troller, il est surtout là pour mettre en avant son idéologie politique. Et ses idées, elles sont simples. Les journalistes sont corrompus ? C'est la faute des femmes. Vous ne vous sentez plus représenté par vos jeux favoris ? C'est à cause des noirs et des musulmans. Vous en avez marre de tout ça ? Mais tapez sur les gauchistes qui défendent ces minorités. Alors, évidemment, il ne le formule pas ainsi. Milo est un British et est plutôt beau gosse en plus, ça aide. Il fait des blagues, se sert de cette culture du troll pour insulter les gens, il prononce des horreurs, mais toujours en disant qu'il rigole. Vous savez, c'est ce fameux « on ne peut plus rien dire ». Sur Twitter, il harcèle des femmes en diffusant des photos nues qu'il a volées et déclare que les transgenres sont des psychopathes. Il devient la coqueluche des médias conservateurs, fait des interviews et tient même une chronique sur le site Breitbart News qui appartient à Steve Bannon, l'un des conseillers de Donald Trump. Pardon, je suis perdu dans les fiches à force de lire. Qui appartient à Steve Bannon, l'un des conseillers de Donald Trump. Bon, vous l'aurez compris, Milo est un facho que l'on peut résumer avec une phrase issue d'un film lui aussi très connu, Jurassic Park.
C'est vraiment un gros tas de merde.
Ah, et si vous n'êtes toujours pas convaincu, mais dans ce cas-là, on sait pour qui vous votez, hein. Milo tuera sa carrière durant son passage dans l'un des plus gros podcasts du monde, où il défendra le droit de coucher avec des mineurs. Et voilà, c'est ainsi que se terminera le Gamergate avec la chute de son plus grand lieutenant qui, tout comme sûrement une bonne partie de 4chan, ne s'avère être qu'un pédophile. S'il est important de raconter cette histoire, ce n'est pas tant parce que le terme « gamer » est donc automatiquement associé avec des fascistes, pédophiles et misogynes, mais c'est surtout pour rappeler que les méthodes qu'ont employées Milo Yiannopoulos et d'autres ont permis plus tard à l'extrême droite d'évoluer, de s'approprier ses moyens de communication et de monter en puissance aussi bien aux États-Unis qu'au Brésil, au Royaume-Uni. Royaume-Uni ou encore en France. En laissant les joueurs et joueuses de jeux vidéo se faire manipuler, on a montré qu'il était également possible de le faire avec d'autres individus, en se servant de mots creux, de concepts alambiqués et en accusant les minorités. L'extrême droite a malheureusement gagné. Elle a réussi à pousser son agenda politique auprès de personnes qu'elle n'aurait pas dû atteindre et à faire des gamers les oppresseurs de demain.